Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce colloque qui correspond pour notre laboratoire et toute l'équipe de recherche internationale que j'ai le plaisir de représenter là aujourd'hui à une étape importante puisqu'il s'agit à la fois de la présentation des premiers résultats d'une recherche et de la confrontation avec d'autres travaux de chercheurs venant d'autres pays parfois. Alors je vais remonter un petit peu le temps et vous raconter d'abord d'où nous vient l'idée de faire cette enquête et puis ensuite comment nous avons attrapé cette question. Alors l'idée vient d'il y a 3 ans et disons elle est partie d'un certain nombre de constats. Un des premiers constats que nous pouvons faire tous aisément, c'est l'idée répandue selon laquelle les jeunes ne savent vraiment rien en histoire. Et ils ne savent rien particulièrement concernant l'histoire de leur pays. C'est ce qu'on appelle un marronnier de la presse, enfin d'une certaine presse particulièrement. Pratiquement chaque année à la rentrée, les pages du Figaro présentent toujours cette lamentation selon laquelle les élèves français ne connaissent pas bien leur histoire française. Alors ça s'est complété depuis les dernières réformes de programme par un autre argument qui serait que trop de temps est passé désormais dans l'étude d'autres pays, d'autres civilisations, et ça se ferait au détriment de la connaissance de l'histoire nationale. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat vient de doutes qui sont exprimés parfois par des personnes d'origine extrêmement différente, à la fois politiques, chercheurs, enseignants, selon lequel plutôt, il y aurait une difficulté particulière actuellement à partager une histoire nationale qui fasse lien, qui fasse consensus, alors que la société française, comme la plupart des sociétés avancées économiquement, on va dire, est caractérisée par un pluralisme culturel, par un pluralisme des valeurs, et que donc ça télescoperait l'idée d'un récit unifié de l'histoire nationale. D'autant plus que cette diversité se traduit par des conflits de mémoire. Et on sait que les tensions mémorielles, les conflits mémoriels émaillent régulièrement l'actualité, mais aussi traversent la recherche historique et traversent surtout les pratiques des enseignants qui sont confrontés à des conflits de mémoire sur certains sujets. Donc, est-ce qu'un enseignement de l'histoire nationale peut soutenir ce qu'il est habituel d'appeler maintenant le vivre ensemble, qui, si on suit Auguste Renan, est un mélange d'héritage et de volonté de vivre ensemble, justement. Donc le doute apparaît à ce propos aussi par rapport à l'espace pertinent qui correspond au développement de ce sentiment d'appartenir à quelque chose de commun. Est-ce toujours la nation ? Et s'agit-il toujours d'un récit national qu'il faudrait développer ? Enfin, dernier constat qui a sollicité notre réflexion, c'est que paradoxalement, à ces critiques ou à ces disons cet état des lieux un peu pessimiste qui est fait sur les connaissances historiques, on peut observer que les publications historiques de vulgarisation ont un succès incroyable en France, qu'il y a des ouvrages de jeunesse nombreux qui traitent de questions historiques, des films, qu'il s'agisse de films à la télévision ou projetés dans des salles, des jeux vidéo également, qui portent sur des pans de l'histoire et qui évoquent différentes périodes et différents pays. Donc, face à cette fabrication d'un sentiment d'appartenance qui est questionné, est-il encore possible ? Et est-il encore possible à l'heure de la mondialisation ? Est-il encore possible à l'heure des tensions mémorielles ? Nous avons donc souhaité investiguer la question de la fabrication d'un commun national et d'un éventuel sentiment d'appartenance. Mais nous nous sommes placés, non pas du côté de la production, à travers les programmes, par exemple, d'enseignement, ou la production vernaculaire, on va dire, mais nous avons voulu nous placer du point de vue des élèves. Est-ce que les élèves eux-mêmes produisent, partagent un certain nombre de connaissances, de façons de raconter l'histoire nationale? Alors bien sûr, nous ne nous situons pas, et nous n'avons jamais voulu nous situer, du côté de l'évaluation scolaire. Et ça, c'est important pour mieux appréhender toutes les présentations qui auront lieu par la suite de ce colloque, puisque l'enquête que nous avons faite n'est pas du tout le PISA de l'enseignement de l'histoire nationale. Cela n'a rien à voir. Vous le comprendrez quand nous allons décrire la méthode de recueil de données que nous avons adoptée. Donc voilà, ce n'est pas ça. Par contre, ce que nous avons cherché à comprendre, c'est comment les élèves, dans une contrainte qui n'est pas étroitement scolaire, les élèves racontent l'histoire nationale, ce qui est très difficile. Je sais pas si vous avez essayé de raconter en trois quarts d'heure ou même pas l'histoire nationale. Donc c'était une consigne évidemment difficile. En même temps, on voit bien que ça permet de faire ressortir un certain nombre de choses. Actuellement, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, il y a une exposition qui s'intitule « L'invention du passé, histoire de cœur et d'épée en Europe, 1802-1850 ». Cette exposition montre comment, au XIXe siècle, les peintres ont réinventé le Moyen-Âge, en quelque sorte, à travers leurs peintures. Finalement, c'est un peu la question que nous avons voulu approfondir. Comment les élèves réinventent le passé à travers leurs connaissances qui leur viennent de différentes sources? Y a-t-il un récit commun? Y a-t-il des blancs dans ce récit et lequel? Comment est-il construit, mis en forme, etc. Donc une enquête d'une telle ampleur en France n'a jamais été faite, ce qui en souligne à la fois la nouveauté et, il nous semble, aussi l'intérêt. Pour nous lancer dans cette entreprise, qui n'a pas été simple, nous avons heureusement bénéficié de l'expérience de Jocelyn Letourneau, qui interviendra ensuite, et qui a mené une enquête précédente, la nôtre, au Québec, sur la même thématique, et qui a déjà, donc une qui avait une longueur d'avance par rapport à nous, d'où notre association dans ce projet, où j'ai invité Jocelyn Letourneau dès le premier séminaire de recherche que nous avons organisé pour prendre connaissance à la fois de la méthode employée par lui et son équipe, mais aussi par les premiers résultats qu'il avait à nous présenter. Bien que nous ayons une attente un petit peu différente quant à cette enquête, Jocelyn Letourneau travaille en plus sur l'émergence de la conscience historique, ce dont il nous parlera tout à l'heure, alors que nous nous préoccupons plus de la fabrication d'un commun, et de quel commun, en ne présupposant pas quel est ce commun. L'intérêt aussi dans cette enquête, ça a été de construire une équipe pluridisciplinaire et internationale. Pluridisciplinaire au sens où elle était composée d'historiens, de philosophes, de didacticiens, de sociologues, de spécialistes de la littérature comparée, et j'en oublie peut-être, j'espère que pas. Au plan international, des collègues allemands, catalans, suisses ont contribué à cette recherche. Et au plan national, nous nous sommes associés avec l'Université de Bourgogne, avec l'Université de Corse, avec l'Université de La Réunion, ce qui nous permettait aussi d'avoir accès à des territoires et des populations diversifiées. La caractéristique de cette équipe aussi, et j'y tiens beaucoup personnellement, c'est que c'est une équipe pluricatégorielle. Elle était composée, certes, de 8 enseignants-chercheurs, mais aussi d'autres participants avec d'autres statuts. Il y avait plusieurs doctorants ou docteurs, formateurs et des enseignants associés, 3 enseignants associés qui ont lu l'aide de l'IFE et qui a marqué ainsi le soutien qu'il a porté à cette entreprise. Les résultats du corpus que nous avons réuni, qui vont vous être présentés, sont encore des résultats partiels. Le corpus est énorme, il est extrêmement riche et nous avons encore du travail à faire à ce sujet. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons élaboré un projet avec l'UMR LISA, qui est un gros laboratoire corse, et qui, dans le cadre du plan État-Région, va pouvoir continuer à soutenir cet approfondissement de nos analyses. Un autre point aussi, c'est que dans le colloque, nous avons souhaité confronter les résultats de notre recherche avec d'autres résultats. Et c'est pourquoi nous avons accepté avec plaisir les propositions d'intervention de Raphaël Gagny de l'Université Laval et puis nos collègues belges Karel van Nieuwenhuyse et Timo van Haver qui nous présenteront le travail qu'ils ont fait en Belgique et au Québec. Enfin, ce colloque a une autre caractéristique, c'est qu'il réunit des personnes, là aussi, de statuts différents, puisqu'il y a à la fois des chercheurs, des enseignants, des formateurs, des cadres de l'éducation nationale, et qu'il est intégré à une formation de formateurs organisée par l'IFE. Le mélange des deux me semble prometteur, de circulation justement des savoirs entre des univers professionnels différents, de débats intéressants, c'est ce que j'espère. Voilà, je vous souhaite un bon colloque, de bonnes discussions et puis de bonnes journées à passer ensemble.
Merci. Donc nous allons procéder de la façon suivante, c'est-à-dire chaque intervenant disposera de 25 minutes de présentation et nous aurons ensuite 10 minutes, 15 minutes suivant la façon dont le temps se déroulera pour des questions-réponses. Je ne sais pas si certains souhaitent intervenir tout de suite, après je pense pas la présentation de Françoise. Donc nous allons commencer avec une présentation sur des questions de méthode. En binôme, Françoise Lantôme et Valérie Fontagneux, qui va pouvoir venir s'installer ici. Voilà. Ensuite, il y aura 2 séries d'interventions. La première sur la conscience historique, conscience politique, avec une intervention de Jocelyn Letourneau, dont il a été question tout à l'heure, et de Frédéric Moll. Puis une intervention sur la mise en récit, les effets de la narration en histoire, présenté par Bruno Garnier de l'Université de Corse. Donc, vous avez la parole toutes les deux.
Bien, donc je continue d'une certaine façon, mais ma partie sera brève. Elle vise surtout à vous donner les objectifs de cette communication, qui est de vous donner des informations sur les choix que nous avons faits concernant le recueil de nos données. Sachant que chaque choix peut entraîner des biais, nous en avons identifié un certain nombre dont nous essayons de tenir compte, mais nous pourrons sans doute discuter de cela. Mais nous pensons que la masse des résultats assure une certaine robustesse à nos résultats. Après avoir présenté les grandes lignes de la méthode employée, ce que je vais faire, je laisserai la parole à Valérie Fontagneux, que je veux remercier et qui est aussi un des signes de la collaboration entre l'Université Lyon 2, le Laboratoire Éducation Culture Politique et l'IFE. Valérie a été une aide précieuse pour nous. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, Recueil et traitement des récits d'élèves, méthodologie d'enquête et de codage de récits. Je rappellerai les objectifs, l'objectif de l'enquête, qui a été donc d'identifier le contenu du récit de l'histoire nationale par des élèves, d'identifier aussi les formes de ce récit, ses références, au sens où ça représente un ensemble de connaissances et une mémoire historique faisant sens commun. Pour le moment, on se limite à cette expression un peu courante. Alors, comment avons-nous procédé ? Tout d'abord, il y a eu un protocole commun aux différents pays, dont nous avons longuement discuté entre nous, qui a donné lieu à des débats parfois passionnés, pour savoir comment il fallait nous y prendre. Donc nous avons choisi d'abord de faire l'enquête en milieu scolaire. On aurait pu, et ça a été à un moment donné une idée qui nous a traversé, c'était de la faire dans d'autres univers que scolaires. Mais pour des questions de faisabilité, ça nous a semblé plus simple de le faire en milieu scolaire. Nous avons choisi aussi la population auprès de laquelle nous allions nous tourner. Cette population a été choisie en fonction de deux critères. Le premier, c'était de choisir des élèves qui se situaient en fin de cycle. Fin de primaire, fin de collège et fin de lycée. C'est-à-dire que nous avons enquêté auprès d'élèves qui démarraient juste la sixième, qui démarraient juste la seconde, ou qui démarraient leur première année après le baccalauréat. La deuxième raison de ce choix est le fait que cela correspondait à peu près aux âges qui avaient été choisis par Jocelyn Letourneau dans l'enquête québécoise, ce qui rendait plus facile les comparaisons entre nos deux corpus. Le questionnaire qui a été adressé aux élèves posait une question toute simple. Raconte l'histoire de... Alors, selon les pays, en France, c'était « raconte l'histoire de France ». Et ensuite, ils avaient une autre partie qui leur demandait « à ton avis ou à votre avis, selon l'âge, d'où vous viennent ces connaissances ?» Et nous avions identifié un certain nombre de possibilités, d'items qu'ils devaient hiérarchiser sur l'identification de l'origine de leurs connaissances. Alors Valérie pourra dire plus précisément quels sont les items qu'on a identifiés. Troisième point, nous leur posions cette question apparemment redoutable. Si tu avais ou si vous aviez à résumer en une phrase, une expression ou un mot l'histoire de France, hein, par exemple, qu'écririez-vous personnellement ? Donc une espèce de slogan qui récapitule. Et enfin, une dernière question portée sur des données sociodémographiques. Le recueil des données s'est fait au début de l'année scolaire 2011-2012 et nous avons recueilli la majeure partie des questionnaires avant décembre, avec une petite exception pour la Corse qui a démarré un peu plus tard. Ce qui veut dire que ceux qui sont arrivés après, nous ne les avons pas tous saisis. Donc même si nous avons eu plus de 6000 questionnaires au total, nous n'avons saisi pour la France, par exemple, que 5800 et quelques. Ça a été la première étape. La deuxième étape a consisté, et là le savoir-faire de Valérie nous a été précieux, elle expliquera comment ça s'est passé, de saisir toutes ces réponses pour constituer une banque de données. Et en parallèle, de construire un codage des récits des élèves, puis d'analyser, de traiter ces données. Ça a été le travail que nous avons fait pendant l'année 2012 et 2013, en partant à la fois d'une analyse inductive et déductive, si cela vous intéresse. Je pourrais vous en dire un peu plus sur notre façon de procéder, qui nous a permis aussi d'identifier un certain nombre de thèmes qui nous ont aidés à coder ces récits. Nous souhaitions aussi avoir une diversité quant au recueil des données. Alors, ça a été un travail collectif. Je reviendrai sur la diversité des recueils de données après. Un travail collectif qui a été accompagné par des séminaires de recherche qui, pour nous, ont été des temps importants pour débattre de ce que nous faisions, mais aussi d'ouverture, puisque nous avons systématiquement invité d'autres chercheurs à venir présenter leurs travaux et à confronter leur travail au nôtre. J'ajoute qu'en France, nous avons, dans le protocole de recueil de données, eu une spécificité qui a consisté à un questionnaire complémentaire qui portait essentiellement sur la Corse et l'île de la Réunion. Cela provenait du fait que nous avions une hypothèse sur une spécificité insulaire, outre l'hypothèse générale qui portait sur... un récit qui devrait être sans doute hybride, il y avait une hypothèse particulière sur une spécificité que pourraient avoir les récits provenant d'élèves de Corse ou de Réunion, de la Réunion. Donc nous avons produit un autre questionnaire où il était inscrit au lieu de « raconte l'histoire de France », « raconte l'histoire du pays », sans préciser de quel pays il était question, en laissant à l'élève le soin d'interpréter, de choisir quel était le sens qu'il donnait au mot « pays ». Nous avons procédé, pour recueillir tous ces questionnaires, par un réseau de ce que nous avons appelé des correspondants, qui étaient des enseignants dans différents endroits de France, d'outre-mer et métropolitaine. Ce réseau de correspondants disposait d'une fiche de consigne qui leur disait comment procéder, et puis d'un autre document dont Valérie parlera. Et ensuite, après le recueil de données, ils nous ont renvoyé tous ces documents. Alors, sur la répartition des questionnaires... Vous voyez là que c'est la France qui fait le plus gros nombre, mais qu'il y en a aussi donc en Catalogne, en Allemagne. Peter Carrière présentera comment il l'a travaillé. Et en Suisse, bien sûr. Vous voyez qu'il y a aussi les différents types d'établissements qui sont présents, mais aussi qu'il y a des inégalités territoriales. Alors si on regarde un peu plus sur la France... Notre idée au départ était de recueillir des données dans des régions qui avaient une histoire locale ou régionale forte. Alors ça a parfois marché, mais pas toujours, puisque nous ne sommes pas passés par la voie institutionnelle, mais que nous sommes passés par une voie plus informelle pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on était encore proche de tout le débat sur l'identité nationale et que nous ne voulions pas que cette enquête soit embarquée dans ces débats-là. Deuxièmement, nous ne voulions pas non plus que ce soit confondu avec une enquête de contrôle des connaissances institutionnelles, d'où notre choix de passer par un réseau informel. Donc il y a effectivement des régions qui sont moins représentées, mais il y a quand même des régions à forte identité historique, locale, représentée. Voilà, je vais laisser Valérie prendre la suite.